cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 10 novembre 1994.
L'âme étant le principe du vivant homme, doit-on dire que tout vivant a une âme, ou bien doit-on dire, comme pour la substance, que l'âme est propre à l'homme? Étant donné qu'on ne la découvre que dans l'homme et qu'on ne peut l'attribuer aux autres vivants que par projection. C'est sûr que si l'expérience propre de la philosophie du vivant, c'est la conscience que j'ai d'une action immanente qui vient de moi, je vous parle, j'ai l'expérience de vous parler. Je mange, j'ai l'expérience de manger. Et je vois que mon voisin mange aussi. Je le regarde. J'ai aucune expérience qu'il est en train de prendre une arête qui l'empêche de l'avaler. Je projette sur le chien. Un petit chien fidèle, on dit à ce qu'il est fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire la fidélité du chien? Est-ce que c'est de l'ordre de l'utile? Ou est-ce que c'est de l'ordre de l'amour? Le chien est fidèle parce qu'il a sa nourriture. Vous savez que pour que le maître s'attache au chien, il faut que ce soit le maître qui le nourrisse. Autrement, aucune fidélité. Et la fidélité est partagée. Alors, point d'interrogation. Et vous discuterez indéfiniment. Et vous ne savez pas. C'est de l'ordre d'une connaissance analogique. Puis c'est tout. Analogiquement, je peux dire que tout vivant a une âme. Mais une âme qui n'est pas immortelle. Et donc, au fond, c'est comme la nature forme. Oui, c'est pour ça qu'Aristote, alors là, c'est pour ça qu'Aristote met dans la philosophie de la nature le Peripsychos. Son livre sur l'âme, ça fait partie des livres de la nature. Nous, nous distinguons plus. Et je crois qu'il faut comprendre qu'il y a vraiment un type de philosophie propre au vivant. Ce qu'Aristote ne fait pas. Et nous devons le faire. Vous voyez, Aristote parle de la physique. Il ne dit pas philosophie de la nature-forme. Il dit philosophie de l'âme. C'est important de voir la manière dont il appelle chaque partie de la philosophie. En réalité, il y a quelque chose de nouveau dans l'expérience du vivant. Quelque chose d'unique. Je suis celui qui est source de mon opération. Ça vient de moi. Voilà le semo vere. Le vivant, c'est celui qui se meut et qui assimile. Et qui assimile une réalité qui est extérieure à lui et qui devient lui. Ça, c'est le vivant. Il se meut. Et j'en ai l'expérience. Mais je n'ai pas cette expérience, si ce n'est par projection, des autres animaux. Si je n'avais pas cette expérience de mon âme, je ne parlerais pas de l'âme. Alors, voyez, tout dépend de la signification que vous donnez de l'âme. L'âme, principe propre, immanent d'opération vitale. À ce moment-là, vous pouvez dire que l'animal a une âme, parce qu'il assimile. Jusqu'où ira l'âme? Parce que vous savez que le virus est intermédiaire entre les deux. Ça ne m'inquiète pas beaucoup. Je me souviens, quand j'ai enseigné la philosophie du vivant, j'allais dominicain, un frère m'a dit, mais mon père, vous devriez commencer par la distinction entre le monde physique et le monde du vivant. Grave question aujourd'hui. Je dis, mais justement, c'est une question tellement difficile que je ne vais pas commencer par là. Le philosophe économise ses forces intellectuelles. Donc il commence toujours par l'expérience la plus typique. J'ai une possibilité, moi, de réfléchir sur ma vie. Et c'est ça qui m'intéresse en premier lieu. Et puis ensuite, je regarde les animaux. Et la frontière entre le monde physique et le monde animal est délicate. Très délicate. Parce que quand vous voyez un arbre, l'assimilation de l'arbre, vous voyez, il pompe dans la terre ce qui lui permettra de vivre, c'est sûr. Et puis l'arbre dort, et il dort lui comme une marmotte pendant tout l'hiver. Ralentissement. Nous avons le privilège de dormir, nous réveiller. Donc nous avons des hivers et des printemps et des étés extrêmement rapides. Admettons tout ça. Le soir, quand vous êtes fatigué, l'automne, les feuilles tombent. Alors si vous êtes très courageux, oui, première feuille qui tombe, laissons-la, une seconde. Puis la chute est tellement rapide après que vous vous dormez. Et puis quand vous dormez l'hiver, puis vous vous réveillez, hein, la sève commence à monter. Et des petits bourgeons. Vous êtes pleinement éveillé quand la lumière est parfaite. C'est très curieux. Hein. Donc on projette. C'est pour ça que la philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant. Vous voyez, et ceci est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a la science biologique. Mais la limite de la science biologique, hein, c'est que de fait, j'étudie génériquement l'opération vitale. Celle de l'animal et celle de l'homme. À tel point que, au point de vue expérimentation, au point de vue médical, on peut arriver à faire d'immenses erreurs. De voir que certains produits chimiques vont pour les animaux. Et si vous les transportez sur l'homme, catastrophe. Au moment de l'évolution, où tout le monde pensait à l'évolution, on a cru qu'on pourrait se servir du sang de singes très évolués. Alors on ferait, vous voyez, des réserves de sang. Et on a vu que c'était impossible. Je ne sais pas si on a fait des expériences, ça a dû être quelque chose d'assez douloureux. On a cru, j'ai lu des passages de cette époque-là, où on disait qu'on aurait maintenant la possibilité d'avoir ces réserves de sang par les animaux. Plus besoin de mode devant des teneurs de sang. Puis on a vu que c'est impossible. Vous voyez, plus on avance, plus on voit la différence entre l'homme, le corps humain et le corps de l'animal. Mais la science biologique, comment fait-elle la distinction entre le corps de l'homme et le corps de l'animal, hein? C'est intéressant de voir ça, parce que c'est là on voit, est-ce que la science biologique saisit quelque chose de l'âme? Regardez dans Teilhard, notre grand évolutionniste. De temps en temps, se plonger dans Teilhard pour voir ce que peut être l'évolution teilhardienne. C'est la complexité. C'est la plus grande complexité de l'homme que l'animal. Il n'y a pas un corps plus complexe que le corps de l'homme. Ça, je crois que c'est juste. Et que c'est ça que le savant biologiste reconnaît. Mais la complexité. C'est vrai, le cerveau est d'une complexité remarquable. C'est ce qu'il y a de plus complexe. Alors, c'est pas la complexité qu'on voit l'évolution, mais c'est purement quantitatif. Et du côté quantitatif, il y a une continuité. Puisque le corps de l'animal et le corps de l'homme, il y a quelque chose qui sont des corps. Et c'est la quantité. Et je ne crois pas que la biologie puisse saisir la qualité propre du corps humain. Elle peut saisir les dispositions, mais pas plus. Or, les dispositions se prennent du côté de la matière. Alors, on peut voir la complexité. La mensuration, c'est la complexité. Et ça, c'est très significatif, vous voyez. Quand on veut essayer de comprendre la différence entre la science biologique et la philosophie du vivant, c'est là où vous voyez tout de suite la différence. Pour le philosophe, vous étudiez d'abord ce qu'il y a de commun entre l'animal et l'homme. Mais il y a quelque chose de commun, c'est la vie végétative. Dans la vie végétative, vous trouvez en gros, génériquement, quelque chose de commun. Et puis la vie sensible. Vous pouvez très bien voir l'irascible et le concupiscible du chien. Le concupiscible du chien, c'est le sucre. C'est vrai. Présenter un morceau de sucre à un bon chien, il saute dessus. Alors s'il est bien dressé, vous lui faites des complexes effrayants. Vous lui présentez un morceau de sucre et tu lui dis, tu ne bouges pas tant que je te permets pas de bouger. Et puis quand le maître dit, ah voilà, alors ici je vais être dessus. Ça c'est le dressage. Mais le dressage est fait de complexes. La psychologie là nous donne des exemples merveilleux. Quand on dresse un chien, on a des complexités. Là, on a des complexes. Et on augmente la complexité du chien. Puisque les complexes, c'est fait pour engendrer de la complexité. Hein. Et c'est vrai. Quelqu'un qui n'a pas de complexe est simple, et spontané, direct. Tandis que celui qui commence à me dire, oh, alors c'est difficile, c'était tout le scrupule, on revient trois fois, on relit quatre fois, j'ai mal relu, j'ai oublié le tournant là, j'ai oublié la déviation, puis on revient indéfiniment, des complexités infinies. À l'infini, on remonte à l'infini. Donc, c'est la réflexion sur ma propre activité qui me permet de discerner ce qu'il y a de tout à fait propre à la vie humaine. C'est par l'intelligence. L'opération humaine. Vous savez, cette chose remarquable d'Aristote, c'est pas quand il dit tout ce qui est commun à l'animal et à l'homme, donc tout ce qui est générique, n'est pas propre à l'homme. Donc, c'est une phrase très forte et intéressante. Or, je ne saisis ce qui est propre à l'homme que dans l'opération, dans la réflexion. Et tout le reste, je le projette sur l'animal. Et la différence spécifique de l'homme et de l'animal, c'est de voir le moment précis où je dépasse la disposition et que je saisis la propriété. Alors, quelle est la propriété de l'opération humaine, vivant humaine? Je crois que c'est le sourire. Puis après, le langage. Mais c'est d'abord le sourire. Oui. C'est sûr que manger, l'animal mange, l'homme mange. La différence, c'est que l'homme mange à table et que l'animal ne mange pas à table, mange par terre. Hein? Mais évidemment, peut-être que les premiers, il fallait inventer la table. Il fallait inventer. Et c'est pas si vieux d'inventer un table, ça. Et quelquefois, on aime bien de revenir à manger par terre. sympathique. C'est plus sympathique. On retrouve le genre. Et on se met à la pélo. Comme le chien. En faisant beaucoup de bruit pour le voisin. L'aspect générique, il revient au galop, l'aspect générique, vous savez. C'est extraordinaire de voir ça. Donc, pour nous, la philosophie du vivant, vous voyez, au fond, ça n'a pas grand intérêt de savoir si l'animal a une âme. Il a une âme, mais une âme très imparfaite. C'est une nature formelle. Mais c'est quand même une âme, parce qu'il a un sémovéré du vivant. Là, nous continuons. Comment discerner dans la vie de l'esprit? Alors, qu'est-ce qui caractérise du reste la vie de l'esprit? C'est Aristote dit, et c'est une parole qui est importante, que les philosophes ont eu beaucoup de peine à passer de l'imaginaire à l'intelligence. Et c'est intéressant, vous voyez, que c'est par la connaissance qu'on prend les degrés de vie. C'est pas par l'appétit. Et ça, c'est capital. C'est par la connaissance. La vie végétative, sans connaissance. La vie sensible, la connaissance apparaît. Dans la diversité. La vie sensible applique une diversité de sensations. Du toucher à la vision. Et ensuite, il y a deux estomacs dans la vie sensible. Je vois, je sens, et puis je garde la mémoire. Je garde tout en moi. Et je me rappelle. Bon, c'est quand même deux moments dans la connaissance sensible, extrêmement intéressants. Il y a la vie sensible, en contact avec la réalité du monde physique et la vie sensible qui me donne une certaine autonomie. J'ai le droit de garder le frigidaire intérieur, ma mémoire. Tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai, je le garde. Je le garde en moi, ma mémoire. Ça me permet de revenir constamment sur un tas de choses. La réminiscence, l'imaginaire. Mais pour qu'il y ait mémoire, il faut l'imaginaire. L'imagination permet la mémoire. La sensation elle-même directement ne permet pas la mémoire. Mais c'est l'imagination. Donc il y a la sensation, l'imagination, la mémoire. Et vous avez là trois degrés très nets dans la vie sensible. La mémoire, c'est le degré le plus parfait de la vie sensible, plus que l'imaginaire. Parce qu'il y a la durée. Grâce à la mémoire, je peux dépasser le temps. Et grâce à la mémoire, j'ai un temps particulier qui est ma durée. J'ai un temps spécial. C'est pas l'imagination qui me donne ça, c'est la mémoire. Donc il faut caractériser ces différents moments de dépassement de la vie végétative. Trois dépassements successifs. Et comment se fait le passage de la vie sensible, de la mémoire, à la vie proprement spirituelle? La mémoire, c'est des représentations, ce sont des images, l'association d'images. C'est comme ça que ma mémoire marche. Et la réminiscence, c'est me rappeler tel événement passé. Je me rappelle très bien ce premier moment où j'ai reçu une gifle de mon père. C'est gravé. Évidemment, je ne peux pas revivre le moment forte. Mon père devenait l'ennemi. Et il se séparait de moi. Va-t'en. Bonne gifle. Affective et la mémoire et l'imagination. Je peux très bien me rappeler ça. Oui, il y a un revécu. Grâce à la mémoire, il y a une relecture. C'est la mémoire qui permet la relecture. Et ça, c'est important. Y a-t-il une relecture de la vie intellectuelle? Non. Il y a une relecture que de l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui permet la relecture. Et la réminiscence permet de mettre un ordre dans cette relecture. Différentes époques, différents moments successifs. C'est l'image qui permet cela. L'image représente. Je vois que dans ma vie de connaissance, à un moment donné, il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est plus la représentation, mais c'est la signification. Ah, la signification. Accompagnée d'un langage. Les mots prennent leur signification. Les mots impliquent très souvent une image. Vous vous représentez un chat. Le mot chat implique une image. Et puis le mot chat implique une signification. Et la signification est autre chose que la représentation. Et j'ai conscience que les mots ont cette signification. Et cette signification, elle est liée à l'expérience. Elle est liée donc à une expérience. La mémoire, la réminiscence, l'imaginaire n'est pas liée à l'expérience. C'est l'intérêt de la mémoire. C'est l'intérêt de l'imagination. C'est que je suis dans l'immanence de mon imagination. Et je ne suis pas lié à ce moment-là au temps et à l'expérience. Tandis qu'au contraire, je vois que la signification est liée à l'expérience. Là, je vois quelque chose de très curieux et de très intéressant. C'est que la vie, la distinction entre l'opération vitale, spirituelle, dans son caractère propre, c'est-à-dire dans sa distinction à l'égard de la cité, à l'égard de l'image, implique à la fois une signification universelle et une expérience singulière. Il y a les deux. La signification implique toujours un lien avec l'expérience. Et l'expérience, ceci est. L'expérience implique le chemin d'existence. Je peux donc dire que ce qui me permet de dépasser le domaine de l'imaginaire, c'est d'une part la signification, mais une signification liée au chemin d'existence. Et je crois qu'il faut toujours affirmer les deux. Parce que si je ne prends que la signification, je risque, puisqu'elle est universelle, de ne plus rejoindre le réel. Alors que si je réfléchis un instant sur la signification, je crois qu'elle est toujours liée à un chemin d'existence. Donc, une d'adhésion au réel. L'imaginaire me fait décoller du réel et me fait planer. Je plane quand j'imagine, quand je me représente quelque chose. Et je plane. Je ne fais appel à aucune expérience. Je suis libre de toute expérience. Tandis que dès que je suis en face de la signification d'un mot, si je creuse tant soit peu, je vois que cette signification, elle est liée à une expérience. Et cette expérience, au sens fort, implique le jugement d'existence. Et ce jugement d'existence, c'est mon intelligence liée à la réalité. C'est moi-même, ne disons pas encore l'intelligence, c'est moi-même lié à la réalité. Je fais la distinction entre ce qui est imaginaire en moi et le réel. Distinction capitale. L'imaginaire, je le porte en moi. L'imaginaire, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais je le construis. Je suis libre. C'est là où j'ai une autonomie farouche. La première autonomie est imaginaire. Il ne faut jamais l'oublier. L'expérience de ma première autonomie, elle est imaginaire. Et donc, il y a toujours un relent de cette première expérience. La première expérience conditionne les autres. Et donc l'autonomie est toujours conditionnée par l'imaginaire. C'est très curieux, ça. Mais je crois que ça, c'est très important dans la philosophie du vivant, de bien noter ça. Et je crois que c'est vrai. Essayez d'y réfléchir. Parce que ma première autonomie, ma première expérience de l'autonomie, c'est l'imaginaire. Je suis libre à l'égard de tout ce qui est autour de moi. Je me représente. Et, au contraire, lorsque je suis en face de la signification, cette signification apparaît comme universelle et apparaît comme liée au concret, au jugement d'existence. Donc la signification ne peut pas se séparer de l'universel et du concret. Ça, c'est peut-être extrêmement intéressant à réfléchir dessus. Parce que vous voyez, c'est au fond le grand problème de Hegel, c'est de faire que l'universel rejoigne le concret. Et l'universel rejoint le concret par le point de vue de la signification. La signification implique les deux. Pour qu'il y ait signification, il faut universalité. Pour qu'il y ait signification, il faut expérience du concret, du réel. Se poser la question qui est une question de critique, mais qui est très intéressante. Peut-on séparer la signification du jugement d'existence? Oui, par la double abstraction. L'abstraction formelle, blancheur. Blancheur est séparée de l'expérience, alors que blanc n'est pas séparé de l'expérience. Or, la signification première, c'est blanc. La signification seconde, c'est blancheur. Alors, si je confonds les deux, je ramène la signification blanc à blancheur, je me coupe de l'expérience. Et tout est là, je crois. Et c'est Occam le premier qui a fait cette confusion, historiquement. Et de Occam est né Luther, et de Luther est né Hegel. Il y a comme une espèce de lien très curieux et très mystérieux. Et je crois que c'est ce moment important au point de vue philosophie du vivant qu'Aristote souligne comme un moment très important et difficile. Il le dit. Des quantités de philosophes restent fixées à l'imaginaire. n'est plus en connaturalité avec nous. Vous voyez, dans l'image, la subjectivité transcendantale joue. Parce que c'est moi qui fais l'image. Je suis fabricant d'images. C'est très curieux. Dans mon autonomie, je suis fabricant d'images. Et donc, il y a une subjectivité transcendantale. La subjectivité transcendantale est vraie au niveau de l'image. Elle n'est pas vraie au niveau de la signification. Si donc je confonds représentation et signification, la subjectivité transcendantale domine. Et la subjectivité transcendantale ne joue plus au niveau de la signification, parce que la signification implique le jugement d'existence. Et c'est le jugement d'existence qui empêche la subjectivité transcendantale. Mon intelligence est faite pour l'être. Et parce qu'elle est faite pour l'être, mon intelligence est relative à la réalité existante. Tandis que dans la subjectivité transcendantale, l'intelligence se sépare de l'être. Et en réalité, c'est pas l'intelligence, c'est l'imagination. Alors je vis dans l'imaginaire. Vous voyez ? Je crois que cette insistance d'Aristote pour montrer le passage de la fantasia à l'intelligence, à la signification, c'est très très important. Et je vois bien comment la signification est liée d'une part à l'universel, d'autre part au singulier. Et c'est ce lien qui me semble capital. Parce que ça, c'est le caractère propre de l'intelligence à la différence de l'imaginaire. L'imaginaire n'atteint pas l'universel, mais l'imaginaire fait une synthèse au-delà du réel. Et c'est cette synthèse au-delà du réel qui donne à l'imagination son autonomie. Le monde d'or. C'est le propre de l'imaginaire. L'imagination, elle est synthétique. Elle fait des synthèses tout le temps, tout le temps. Des unions bizarres. Je mets une tête à la place du bras et je mets le bras à la place de la tête. Ça, c'est imaginaire. Oui, et l'art moderne est parti par là. Et Picasso, quand il a fait ça, il met dans la tête quelque chose du bras tout d'un coup. Il y a un pouce qui pousse là dans la tête. Et ça, c'est imaginaire. Et c'est merveilleux, je suis le roi. Personne ne veut rien me dire. Je suis le roi. Subjectivité transcendantale. Je fais toutes les synthèses possibles. Dès que je suis dans la signification, je ne peux plus. Parce que la signification ne provient pas de moi. La signification n'est pas une synthèse, tandis que la représentation est une synthèse. La signification, elle est simple. Elle est quantitative. Elle se fonde sur la quantité. La signification se fonde sur la quantité. Toute quantité a sa signification. Et la quantité, je saisis dans la réalité. Le Tautienheinein. Vous voyez, dans le Tautienheinein est impliqué l'abstrait et le concret. C'est ça qui est extraordinaire. Dans le Tautienheinein est impliqué le concret, Tautienheinein, et le Tien. Le Tien, c'est l'abstrait, c'est l'universel. Et le Tautienheinein, c'est le concret. Donc dans la quantité est impliqué les deux. Et ça, c'est le fondement de la signification. Et ce fondement de la signification, alors, me fait découvrir quelque chose qui est au-delà de la représentation et que je ne peux plus représenter. Vous ne pouvez pas représenter la signification de l'homme, la signification de l'araignée, la signification du chat. Vous êtes au-delà, puisque l'universel ne se représente plus. Il implique signification. et le concret. Et le concret, lui aussi, il peut se décrire. Il peut se décrire. Mais il a quelque chose qui échappe à la subjectivité transcendantale. Parce qu'il est avant moi. Il est ce que je découvre. Et je le découvre par l'acuité. Totienainain. Mais vous voyez, l'apparition de l'intelligence, c'est la découverte de l'acuité. Et ça, c'est vrai, c'est la découverte de l'acuité. C'est la signification de la chose. Alors, à partir de là, je vais essayer de comprendre comment la signification de la chose implique une appréhension et un jugement. L'appréhension implique l'abstraction d'où naît l'universel. Et le point de vue du jugement implique que ceci est. Je suis en face du concret existant, du singulier existant. Donc, première chose qu'il faut faire au point de vue philosophie du vivant, la distinction, l'apparition de l'esprit au-delà de l'imaginaire, au-delà de la mémoire, au-delà de la réminiscence. Si donc la relecture est dans l'ordre de l'imaginaire, le dépassement de la relecture, c'est le jugement d'existence. Là, la psychologie ne peut rien dire, puisque la psychologie présuppose la connaissance et le jugement d'existence ne présuppose rien. C'est mon intelligence face au réel. Le second moment, c'est de découvrir dans la vie de l'esprit un au-delà de la connaissance spirituelle. Le point de vue d'une expérience toute nouvelle de l'amour. C'est cet amour spirituel qui me fait comprendre la différence qui existe entre le jugement d'existence lié à l'universel, donc la signification, et la découverte de l'ami. Et je crois qu'il faut prendre tout de suite la découverte de l'ami. Parce que si je prends la découverte d'une intention de vie, c'est très bien, mais ça c'est le fruit d'une analyse. Tandis que l'expérience de la volonté, dans ce qu'elle a de plus, de parfait, c'est l'expérience de l'amour d'amitié. L'expérience de l'amour d'amitié me met en présence de l'ami. L'ami qui existe, mais qui est mon bien. Donc c'est l'expérience du bien, et du bien spirituel qui est la personne. D'une réalité existante, capable de m'attirer, capable d'éveiller en moi un amour. Et cette expérience de l'amour, et de l'amour dans ce qu'il a de parfait, c'est-à-dire l'amour d'amitié, dans ce qu'il peut avoir de stable. Cette expérience de l'amour d'amitié va me permettre de comprendre que au-delà de l'intelligence qui atteint la signification des choses, il y a une autre puissance je crois que c'est vraiment là où je vois la distinction entre ce que représente la vie spirituelle de l'intelligence et la vie spirituelle de l'amour. Signification, la découverte de la signification et la découverte du bien. Le bien est au-delà de toute signification. Cette découverte du bien se fait en l'aimant. Et l'amour dépasse sa signification.